Alors nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, un livre ô combien difficile parfois, mais extraordinaire. Vous vous rappelez ce que veut dire Apocalypse ? Révélation, c'est la révélation de Jésus-Christ. Ça ne décrit pas simplement des fléaux apocalyptiques, mais ça décrit surtout la révélation finale de Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ. Nous avions vu dans les premiers chapitres comment le Seigneur se montre dans toute sa gloire à l'apôtre Jean qui tombe évanoui. Et le Seigneur le relève et lui dit « Ne crains pas » et lui redonne des forces pour qu'il écoute et qu'il écrive tout son livre. Et le premier message que le Seigneur Jésus adresse, c'est aux églises, à sept églises. Nous avions vu que le chiffre 7 symbolise dans la Bible en général la perfection ou la plénitude, c'est-à-dire les sept églises représentent toutes les églises, de tous les lieux et de tous les temps. Et dans ces sept églises d'Asie mineure, hein, la plupart se trouvent en Turquie, eh bien toutes les églises de Jésus-Christ sont représentées. Nous avions vu la première lettre qui s'adressait à l'église d'Éphèse, où Jésus dit « N'abandonne pas ton premier amour. » N'abandonne pas ton premier amour. Et là, nous allons voir survoler plusieurs églises, en commençant donc par Smyrne, et je vais lire donc Apocalypse chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écris à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Je ne vais pas lire la suite, nous le verrons en temps utile. Mais ici, nous voyons que Christ parle à chaque église d'une façon très personnelle. Et à chaque fois, il y a la même forme de message. Christ commence par rappeler qui il est. Par exemple, à Smyrne, il dit, verset 8, « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » C'est Jésus-Christ qui est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Ça prouve d'ailleurs qu'il est Dieu, parce que Dieu seul s'appelle ainsi dans l'Ancien Testament, le premier et le dernier. Et on remarque que ces paroles qu'il dit, il les a dites déjà à Jean lorsqu'il s'est révélé à lui. Et il récapitule chaque chose avec chaque église. Et puis après s'être présenté, il dépeint la situation de l'église. Je sais où tu demeures, je sais où tu es, je sais quelle est ta situation. Et puis après, il loue les qualités de l'église. Je sais que tu as fait ceci, que tu as fait cela, que tu n'as pas supporté ceci et cela. Et puis après, il dénonce les égarements de cette église. Ce que j'ai contre toi. Ensuite, il l'appelle à corriger le tir. Repens-toi. Change d'attitude, change de pensée, change de direction. Et finalement, il fait une promesse à la fin, à celui qui vaincra, etc. C'est toujours la même forme de message à chaque église. Et Christ nous parle encore aujourd'hui. Christ marche au milieu des chandeliers, ces chandeliers qui symbolisent dans l'Apocalypse les églises. Les églises sont comparées à des chandeliers qui éclairent leur ville, qui éclairent leur pays. C'est une grande responsabilité de s'appeler un chandelier pour Christ ou une lumière du monde. Hein? Franchement, est-ce que nous sommes des lumières? D'un point de vue intellectuel, peut-être pas, mais Dieu veut qu'on soit des lumières par notre vie. Que notre vie brille. Que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur soient touchés par notre lumière. Peu importe qu'ils soient fâchés ou contents, mais qu'ils voient que ça brille, qu'il y ait quelque chose de fort, de vrai, et pas brille, n'est-ce pas, avec de l'or et des pierres précieuses, mais que ça brille de l'intérieur, que ce soit notre cœur attaché au Seigneur qui retransmet la lumière de Jésus-Christ. Et Christ veut parler à notre Église aussi aujourd'hui. Nous n'avons pas à juger les autres églises. Parce que Christ s'intéresse à notre église et il veut parler à notre église et notre responsabilité, c'est notre assemblée locale. Avez-vous remarqué l'expression qui revient chaque fois à la fin de ces messages? Par exemple, au verset 11, il dit « Que celui qui a des oreilles entende ». Alors, c'est un peu rigolo comme expression, que celui qui a des oreilles entende. Oui, on a tous plus ou moins des oreilles. Si j'ai des oreilles, j'entends. Mais, eh bien non. Eh bien non. On peut avoir des oreilles, on peut entendre les sons qui sortent de la bouche de notre interlocuteur, mais ne pas l'écouter. Et Christ nous parle et il dit « Tendez bien l'oreille, écoutez ce que j'ai à vous dire, parce que c'est vital ». Pour la vie de votre Église, pour la survie de votre Église. C'est pareil en tant qu'individu, hein? Le Seigneur veut nous parler. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Vous pouvez lui expliquer les choses, vous pouvez parler, parler, parler. La personne peut dire même oui, 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 mais si elle ne veut pas entendre, ça restera là et ça va sortir de l'autre côté, comme on dit. Mais lorsque c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle, nous avons intérêt à bien l'écouter. Parce qu'il nous aime. Quand le Seigneur parle, ce n'est pas en l'air. Combien de fois je parle en l'air? Combien de fois j'ai des conversations sans intérêt? Mais quand le Seigneur Jésus parle, il ne parle pas en l'air. Vous remarquerez dans les évangiles, il y a beaucoup de paroles de Jésus, il n'y en a aucune qui est en l'air. Même lorsqu'on lui posait des questions triviales, Jésus trouvait toujours le moyen de répondre avec quelque chose de profond et de puissant. Un jour, on lui pose cette question un peu classique. Hein. Mais cette tour qui est tombée sur les gens, alors est-ce qu'ils étaient plus pécheurs que les autres, ceux qui ont été écrasés par la tour? Donc ça, c'est un petit peu la question des faits divers. Hein. Mais alors, les gens, ils ont eu un cataclysme, une catastrophe, ils sont morts. Est-ce qu'ils ont été punis par Dieu? Et Jésus, au lieu de faire des rodomontades sur les faits divers et pourquoi, comment, il dit « Non, ils n'étaient pas plus pécheurs que les autres ». Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. Il a élevé le débat d'un seul coup. Au lieu de dire, oui, on va discuter, oh, vous vous rendez compte, c'est catastrophe, c'est terrible. Non, mais vous, ne parlons pas des gens qui sont morts, parlons de vous qui êtes vivants. Si vous ne vous repentez pas, le jour où vous allez mourir, vous allez périr. Périr, c'est un mot très fort dans la Bible. Ce n'est pas juste mourir physiquement. Périr, c'est être perdu pour l'éternité. Et quand le Seigneur nous parle, il vaut mieux ouvrir ses oreilles. Et quelquefois, ça ne fait pas plaisir ce qu'il nous dit. Parce que le Seigneur nous dit la vérité. Le Seigneur est la lumière et la lumière ne transige pas avec les ténèbres. La vérité et le châtiment sont parfois douloureux, mais finalement, ça fait du bien. Ça fait tellement de bien d'entendre la vérité, que quelqu'un vous dise la vérité. Vous n'avez pas assez des mensonges, des flatteries. Les gens qui sont flatteurs, ça va un moment, parce qu'au début, on est content. La personne vous dit, oh, tu sais, tu es comme ci, tu es comme ça. Au moins, quelqu'un qui reconnaît ma valeur, n'est-ce pas? Et là, l'orgueil est gonflé. On est heureux. Mais au bout d'un moment, si la personne continue à vous flatter, là, vous dites, là, elle exagère un peu quand même. Et puis, finalement, vous vous rendez compte que cette personne ne vous dit pas ce qu'elle pense. Elle vous dit ce que vous voulez entendre. Et elle a un intérêt derrière la tête. Et on ne sait pas quel est son intérêt, mais il vaut mieux pas le savoir. Moi, je préfère quelqu'un qui est franc de port, qui dit la vérité. Et le Seigneur nous dit la vérité. Et il le dit parce qu'il nous aime. Parce qu'il aime nos églises, notre église, les églises qu'il a fondées. Alors, quelle était la situation des églises? Elle était différente pour chaque église. Et Dieu tient compte de la situation où nous sommes, de l'époque où nous vivons, de la ville où nous sommes, de la situation politique, économique. Dieu tient compte de tout ça et il voit tout cela. Dieu ne juge pas comme ça, au petit bonheur, la chance, il ne fait pas de favoritisme, il regarde la situation de chaque église. Par exemple, la première que nous avons vue, Smyrne, en Turquie, elle se trouvait dans une ville très riche, remplie de commerçants organisés en guildes, et ces commerçants possédaient la ville, et si vous n'étiez pas soumis à leur guilde, vous étiez exclu. Et vous viviez dans la pauvreté. Et c'est ce qui est arrivé à cette église de Smyrne. Elle a été exclue parce qu'elle professait la foi en Jésus-Christ. Et cette église, il dit, est pauvre, bien que vous soyez riche. Pourquoi il dit ça? Parce qu'ils sont riches spirituellement dans la foi. Ils étaient pauvres matériellement, mais ils étaient riches dans la foi. Souvenez-vous de ça, si vous êtes pauvre matériellement. Par contre, on verra une prochaine fois que l'église de Laodicée était riche matériellement. Mais Jésus lui dit, tu es pauvre, aveugle et nu. Smyrne était dans une situation difficile. Le pouvoir romain, qui était en action jusqu'en Asie mineure où était cette ville, éliminait systématiquement tout chrétien, tout témoignage chrétien. Les églises étaient fermées si elles se réunissaient. Les chrétiens devaient se réunir clandestinement, un peu comme ça se passe en Chine, Ils devaient se réunir dans les forêts, dans des maisons, la nuit. Et ils vivaient dans cette clandestinité permanente. Certains étaient arrêtés, tués, condamnés à mort. Et il y avait même contre eux certains juifs à Smyrne. Il dit des juifs qui se disent juifs mais ne le sont pas et qui appartiennent à la synagogue de Satan. Quand vous lisez le mot juif dans le Nouveau Testament, rappelez-vous une chose, ça ne décrit pas tous les juifs. C'est un mot qui veut dire les judéens, c'est-à-dire les habitants de la Judée. Et les judéens, les juifs de Judée étaient particulièrement hostiles à Jésus. Ce sont des judéens, notamment des sacrificateurs, des scribes, des gens éminents dans la religion juive, qui ont fait condamner à mort le Seigneur Jésus. Et ils ont ensuite poursuivi Paul. Paul, qui était parmi eux avant un pharisien, né de pharisiens, qui est passé aux chrétiens, et à partir de ce moment-là, il a eu des ennemis qui l'ont suivi toute sa vie, qui l'ont calomnié, qui ont essayé de le faire arrêter, qui ont réussi à le faire arrêter. Et Paul est mort, décapité par l'épée romaine. Il y avait donc certains juifs qui calomniaient, qui attaquaient les églises, et l'église de Smyrne en particulier. Alors que nous, qui aimons le peuple juif depuis que nous connaissons la Bible. Moi, je n'avais pas particulièrement d'amour pour le peuple juif quand j'étais athée. Et même comme beaucoup de Français, je ne les appréciais pas trop. Mais dès que j'ai ouvert mon cœur au Seigneur et que j'ai commencé à lire la Bible, il y a un amour pour le peuple juif qui est venu naturellement. Parce que c'est le peuple de Dieu. Et dans notre Église, nous encourageons cet amour spécial, on peut dire. On aime tout le monde, et Christ aime tout le monde, mais le peuple juif a des promesses particulières. Et c'est d'eux que nous avons la Bible. Jésus était juif. Le Messie vient des Juifs. le salut vient des Juifs. Malheureusement, il y a certains Juifs qui sont anti-chrétiens, même à Paris. Quand on essayait d'apporter la bonne nouvelle dans le quartier du Marais, là-bas, Saint-Paul, etc., et il nous est arrivé d'avoir des rencontres violentes, hein, où des Juifs venaient nous agresser violemment. Laissez-nous ! Ne nous parlez pas de ce nom, parce qu'ils ne prononcent jamais le nom de Jésus, les orthodoxes. Ne nous parlez pas de ce nom. Mais heureusement, il y a un certain nombre de Juifs qui, en lisant la Torah, en lisant la Bible, découvrent, et le Nouveau Testament aussi, que le Messie, c'est bien Jésus. Qu'il correspond parfaitement à la carte d'identité du Messie, à la généalogie du Messie. Et donc le Seigneur voit que Smyrne est une église en difficulté, une église cernée de toutes parts, pauvre, clandestine. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est la seule église où il n'y a aucun reproche. Pas de reproche. Pourquoi le Seigneur ne fait pas de reproche? Est-ce qu'ils étaient parfaits à Smyrne? Est-ce qu'ils étaient sans péché, des chrétiens absolument idéaux? Non. Mais parce qu'ils souffraient cette persécution, le Seigneur avait autre chose à faire que de leur faire des reproches. Ils avaient besoin d'encouragement pour continuer malgré les difficultés. Il y a un temps pour encourager et un temps pour faire des reproches. L'église de Pergame, un autre exemple. Pergame, aujourd'hui, ça s'appelle Bergame. Hein? C'est en Turquie aussi. Il dit que c'est le trône de Satan. Alors là, c'est encore plus fort. Pourquoi? Parce que Bergame ou Pergame était un centre de la religion païenne. Il y avait énormément de dieux dans cette ville, mais c'était vraiment un centre de religion, de chamanisme et d'occultisme, comme on appellerait aujourd'hui. Et l'église était là, au milieu de ce centre où on adorait l'empereur romain. Il y avait un culte qu'on rendait à l'empereur à Pergame, et si vous ne vous baissiez pas pour adorer l'empereur, vous pouviez être arrêté et condamné à mort. Imaginez un chrétien, on lui dit « Allez, adore avec toute la foule l'empereur !» Le chrétien ne bouge pas, hein, comme au temps de Daniel. On ne se laisse pas impressionner. « Ah, toi tu ne t'es pas courbé, dis donc, devant l'empereur. Tu as dû mal entendre peut-être. Allez, on t'attend. » Non, moi je ne me courbe que devant Jésus-Christ. « Ah, un hérétique, arrêtez-le !» Et les chrétiens étaient harcelés là aussi, persécutés à Pergame. Mais là, Christ va faire un reproche. Il va lui dire, « Néanmoins, vous avez des gens dans votre église, au verset 14, attachés à la doctrine de Balaam. » Balaam, c'est un faux prophète qui se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 22. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez lire ce chapitre 22 des Nombres. Et il a été appelé par les ennemis d'Israël pour maudire Israël. Et il n'a jamais réussi à les maudire. Au moment où il allait les maudire, en faisant des grands salamalek, il a été obligé de bénir. Sa bouche, sa langue est partie de l'autre côté. Il a dit « Quelles sont belles tes tentes, ô Israël !» Mais ce n'est pas ça qu'on retient surtout de Balaam ici. C'est que comme il n'a pas pu les maudire, il a utilisé une autre tactique de les infiltrer avec la corruption, avec l'idolâtrie. Et il a introduit l'idolâtrie dans le culte de Yahvé. Et ça a été une grande perte pour les Israélites, parce qu'après ça, ils ont souffert de cette plaie de l'idolâtrie. Tout le temps, les rois d'Israël étaient dans l'idolâtrie, pour certains. Certains avaient même, au temps d'Ézéchiel, des idoles cachées dans le temple. Je ne sais pas si vous imaginez. Ils avaient une pièce secrète qu'ils avaient trouée dans le temple, et là, ils avaient leur petite statue, et les sacrificateurs juifs adoraient leurs petites idoles. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est Balaam qui est à l'origine de ça. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que Satan a deux méthodes. L'ennemi de Dieu et l'ennemi des églises, hein? Satan. D'abord, sa première méthode, c'est la brutalité. Persécution. Attaque. Interdiction. On brûle la Bible, on interdit la Bible, on interdit de se réunir, on tue les chrétiens, on les arrête, etc. Mais il s'est rendu compte, bien qu'il utilise encore cette méthode, que ça ne fait que multiplier les chrétiens et les églises. Plus on les persécute, plus ils se multiplient. C'est un drôle de phénomène, mais qui s'est retrouvé dans toute l'histoire de l'église. Alors il a utilisé sa deuxième tactique, qui est beaucoup plus efficace, malheureusement. Après l'attaque frontale, il fait l'infiltration. Il se met à l'intérieur, il sème l'ivraie, comme dit Jésus, au milieu du blé. Et là, par l'infiltration, il corrompt les chrétiens et les églises de l'intérieur. Il met des faux chrétiens qui vont conduire les églises loin du Seigneur. Et là, il y avait dans cette église de Bergame, de Pergame, des gens attachés à la doctrine de Balaam. C'est-à-dire des gens qui prenaient le mélange avec les idoles. On a le droit d'adorer Dieu et Jésus-Christ, mais on peut aussi adorer les idoles. Une chose que Christ veut nous dire ce matin, c'est qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur qui est Jésus-Christ. Si vous avez des images de saints, des objets que vous vénérez, si vous priez des statues, s'il vous plaît, arrêtez. Ce sont des choses que le Seigneur interdit. C'est dans les 10 commandements. Vous ne ferez pas d'image taillée de statue et vous ne vous prosternerez pas devant elle. Jésus a dit, ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Pas besoin d'objets. Pas besoin d'être humain. On adore Dieu directement, en esprit et en vérité, à travers Jésus-Christ. Parce que le Seigneur la parle fort à l'église de Pergame. Ne mélangez pas la foi en Dieu et les idoles. Et puis, il y a le temps des louanges. Ce qu'on remarque en lisant les messages à ces églises, c'est que la plupart, hein, la majorité, persévère dans la foi face aux persécutions. Et ça, c'est vraiment pour nous un modèle. Elles ont des ennuis en permanence, elles sont harcelées, harassées, interdites, mais ils persévèrent. Hein, Jésus loue leur fidélité, leur persévérance, leur constance. Et vraiment, c'est pour nous un modèle. Est-ce que notre Église est comme ça? Est-ce que chacun d'entre nous est un chrétien persévérant? Il y a malheureusement beaucoup de chrétiens qui laissent tomber. Au bout d'un moment, ils ont des difficultés dans leur vie, alors qu'ils sont venus à la foi en Jésus-Christ. Ils disent, je ne comprends pas. Si je crois en Dieu, il devrait me bénir, et donc je ne comprends pas pourquoi j'ai des difficultés. Si je crois en Dieu, je ne devrais pas être malade. Je ne devrais pas être au chômage, je ne devrais pas avoir des épreuves comme j'en ai. Et ça, c'est un faux raisonnement. Jésus n'a jamais dit que si vous croyez en lui, vous ne serez jamais malade, jamais, vous aurez toujours votre compte en banque rempli et que vous n'aurez jamais aucune épreuve. Au contraire, il a dit, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jésus a dit, vous aurez des tribulations, des problèmes dans le monde. Il y a un certain nombre de problèmes qu'on n'a plus quand on est chrétien parce qu'on met sa vie en règle. On devient honnête, donc on n'a plus de problème avec la justice. En général, on ne s'enivre plus, on ne fume plus, donc on a une meilleure santé. On est beaucoup plus dans la paix, dans la prière, dans le repos, dans l'amour, dans la joie, donc on a une meilleure santé, parce que tout ça, ça joue hein, sur la santé. On a des meilleures relations avec les autres, parce qu'on apprend le pardon, l'humilité, l'amour. Tout ça sont des choses que Dieu améliore. Mais on peut être au chômage, on peut être malade, on peut avoir des épreuves. Et même parfois, Satan s'acharne sur certains chrétiens, il veut les faire tomber. Alors, il les frappe. Rappelez-vous le cas dans l'Ancien Testament. Qui est cet homme qui a été frappé de toutes parts? Job. Job était un homme juste devant l'Éternel, dit la Bible. C'était pas un chrétien de seconde zone. C'était même le plus juste de tous les croyants de la terre. Et Satan s'est acharné pour le faire tomber. Et le pauvre, il en a vu, Job. Mais une chose, il s'est plaint, il a beaucoup pleuré, il a beaucoup posé de questions à Dieu en disant, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais il n'a jamais renié sa foi. Il n'a jamais cessé de faire confiance à Dieu. Quand il avait un problème, il allait toujours le dire au Seigneur. Il n'a jamais tourné le dos à Dieu en disant, bon, j'en ai assez de la vie chrétienne, c'est trop dur. Si vous êtes un chrétien comme ça qui est tenté de laisser tomber, de ne pas persévérer, j'aimerais vous dire au nom du Seigneur, persévérez. Il y a une récompense pour ceux qui persévèrent déjà. Et puis, c'est meilleur d'être avec le Seigneur que d'être dans le monde. Un chrétien qui est dans le monde, c'est l'homme le plus triste de la terre. Pourquoi? Mais parce qu'il a sa conscience qui lui fait des reproches chaque fois qu'il pêche. Et il a sa conscience qui lui fait des reproches chaque fois qu'il ne va pas à l'église ou chaque fois qu'il rencontre des choses chrétiennes. Et il n'est jamais heureux. Il n'est heureux nulle part, ni avec les chrétiens, ni dans le monde. Alors que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il pêche sans vergogne, hein, en général. Sa conscience lui fait des reproches au début, puis après elle lui fait plus de reproches. Donc il pêche avec bonheur, n'est-ce pas? Il se vautre. Il n'a pas de culpabilité, mais vous savez, c'est terrible de ne pas avoir de culpabilité. Ça veut dire que votre conscience est vraiment gravement atteinte, gravement malade. Mais au moins, il est dans la paix et la joie. Le chrétien, lui, il se traîne avec sa tristesse. Il n'est pas vraiment chrétien, pas vraiment dans le monde. C'est meilleur d'être avec le Seigneur. Et si vous avez des épreuves, c'est le moment de mettre votre foi en action dans l'épreuve. Seigneur, je suis dans l'épreuve, je souffre, j'ai envie de laisser tomber, j'ai peur, je panique, qu'est-ce que je dois faire? Allez vers le Seigneur et il va s'occuper de vous. Vous allez voir à quel point il va vous porter. Vous connaissez cette illustration, hein, de cet homme qui marche dans le sable et c'est un rêve, et puis il y a ces traces de pieds, hein, magnifiques dans le sable, et puis il voit le Seigneur qui marche à côté de lui et qui laisse ses traces de pieds. Il dit « Ah Seigneur, c'est bon de marcher avec toi dans le sable et de savoir que tu es là avec moi. » Et puis il continue à marcher, puis d'un seul coup, il ne voit plus qu'une trace de pied. Il dit « Seigneur, tu m'abandonnes, tu me laisses tomber. Où es-tu? Je ne vois plus. » Et le Seigneur lui dit « Mais non, je te porte dans mes bras, ce sont mes pieds que tu vois. » C'est une petite image toute simple. Mais parfois on panique, on dit « Seigneur, pourquoi j'ai des catastrophes cette semaine ?» Le Seigneur est là, il ne t'a pas laissé tomber. Mais prie, fais-lui confiance. Une chose qu'on remarque par exemple pour Thyatire, il dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » À Philadelphie, il dit « Tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. » Le Seigneur est précis dans ses louanges. Il voit notre vie, il voit notre assemblée, il voit les bons côtés. Mais il y a aussi les mauvais côtés, les reproches. Et Jésus ne s'intéresse pas aux détails. Il ne dit pas « Ah, je ne comprends pas pourquoi vous vous réunissez à 11h et pas à 10h30. Je ne comprends pas pourquoi vous mettez du jus de raisin et pas du vin, ou je ne sais pas. » Le Seigneur ne s'intéresse pas aux détails. Les reproches qu'il fait là sont des choses très graves, des choses qui mettent en péril l'avenir de ces églises. Et c'est pour ça que le Seigneur leur dit. C'est une question de vie ou de mort pour l'église. Jésus n'est pas un légaliste, hein. Vous rappelez lorsqu'il marchait dans les champs avec ses disciples et qu'un jour du sabbat, ils ont ramassé des épis de blé pour manger et que les pharisiens leur ont fait ce reproche. Comment vous avez cueilli du blé le jour du sabbat? Et Jésus dit, mais David a fait pareil dans l'Ancien Testament et Dieu ne s'intéresse pas à ces choses-là. Ce qui compte, c'est d'aimer Dieu, de le respecter, de lui obéir, pas ces petits détails légalistes. Ce qui est terrible quand on pense à ces sept églises d'Asie mineure, c'est qu'elles ont disparu. Quelque part, elles n'ont pas tenu leur chandelier en place. Et il y a des églises qui disparaissent tous les jours dans le monde. Heureusement, il y a des nouvelles qui apparaissent aussi. Mais une église peut disparaître d'une génération à l'autre si les enfants ne viennent pas au Seigneur, si l'évangile n'est pas prêché, l'église s'attiédit, se refroidit et meurt. Comme une fleur qui meurt, qui n'a plus d'eau, plus d'arrosage. C'est cet écrivain, M. Bounds, qui a écrit ce livre « Puissance par la prière » que je vous conseille de lire si vous l'avez. Il dit « Parler aux hommes de Dieu est une grande chose. Hein, » c'est-à-dire prêcher l'évangile aux hommes, c'est une grande chose. « Mais parler à Dieu en faveur des hommes dans la prière » est encore plus grand. Celui-là ne parlera jamais bien de Dieu aux autres hommes s'il n'a pas d'abord bien compris et bien appris comment parler à Dieu des hommes, comment intercéder. Et là, il va plus loin, il dit, je vais plus loin, des paroles, hein, des prédications sans la prière, du haut de l'estrade ou en dehors, sont des paroles au pouvoir mortel. Et ce qu'il dit dans son livre, il dit, c'est qu'il y a des messages qui vous tuent spirituellement parce qu'il n'y a pas la vie Il n'y a pas eu la prière avant. Il n'y a pas eu l'intercession. Ce n'est pas donné dans l'amour de Christ. Ce sont des messages intellectuels.
Voilà, nous voyons ça dans la Bible, n'est-ce pas? Et là, un tel auteur, tel père de l'Église nous disait, c'est ça, alors...
Des beaux discours intellectuels, ça passe la plupart au-dessus des têtes. Et pour ceux qui l'acceptent, ça les tue spirituellement. Ce qui donne la vie, c'est quand il y a le Saint-Esprit qui prend l'Évangile et qui vous touche. Une église qui n'a aucune louange, et ça c'est particulier, c'est l'église de Sardes. Il dit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, c'est chapitre 3, verset 1, et tu es mort. » Ça c'est terrible. Aucune louange. Tu penses être vivant, mais tu es mort. Tu es une église morte. Heureusement, le Seigneur finit toujours par une promesse. Toujours. Même quand le Seigneur nous châtie ou nous parle fort, il nous encourage toujours avec une promesse. Mais est-ce que vous avez remarqué à qui s'adresse chaque promesse à chaque fois? Il y a la même expression qui revient. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Ça ne veut pas dire que pour être sauvé, il faut persévérer toute sa vie dans la vie chrétienne. Nous savons par tout le reste de la Bible que le salut est gratuit, qu'il ne se mérite pas, qu'on ne persévère pas pour l'avoir. Le salut, on le reçoit comme un cadeau de Dieu. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, quand il dit à celui qui vaincra, je donnerai ceci ou cela, il ne parle pas du salut. Il parle de récompense qu'ils auront lorsqu'ils seront dans l'éternité. Car les chrétiens seront récompensés. Des fois, on se dit, ben, on va tous arriver au ciel, ce sera merveilleux. Oui, ce sera merveilleux, mais il va y avoir des récompenses. Certains auront des récompenses et d'autres auront perdu leur récompense, malheureusement. Mais il dit, celui qui vaincra, il aura ceci, il aura cela, il aura ceci, il aura cela. Est-ce que nous sommes des chrétiens qui vainquent, des vainqueurs, si on peut dire? Alors un vainqueur, ce n'est pas quelqu'un qui bombe du torse et qui dit, je suis le plus fort, Satan, il peut venir, je l'attends. Ce n'est pas ça un vainqueur dans la Bible. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui compte sur le Seigneur pour vaincre. Dans les chapitres suivants, il dit, ils l'ont vaincu, le diable, à cause du sang de l'agneau. Les chrétiens sont vainqueurs parce que Jésus-Christ les a pardonnés, purifiés par son sang précieux. Et Dieu nous appelle à vaincre, c'est-à-dire à combattre spirituellement par la prière, par l'évangélisation. Et à ne pas nous arrêter, à ne pas nous laisser décourager. Vous avez des ennuis de santé, vous avez des problèmes au travail, vous avez des problèmes à la maison. Ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras. Redoublez même de prière. Redoublez. Plus on a de problèmes, plus il faut prier et lire la parole de Dieu pour trouver les réponses. Et vous verrez comment Dieu va régler les choses. Notre Dieu est un Dieu d'encouragement. Il parle aux églises, il parle aux chrétiens. Où en est notre église? Est-ce que ce matin, il y aurait quelqu'un qui ne recevra pas le caillou blanc là, de Apocalypse 2, 17. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. La manne, dans l'Ancien Testament, c'était ce qui avait nourri les Israélites, les Hébreux dans le désert. Elle était cachée dans un vase pendant longtemps dans le temple. Et puis un jour, elle a disparu. Et puis Jésus est apparu et a dit, « Je suis le pain de vie, je suis la manne cachée. » Qui était caché, je suis révélé. Est-ce que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie? Est-ce qu'il est votre sauveur? Est-ce que vous l'avez connu? Est-ce que vous êtes allé vers lui? Mais vous dites, mais Jésus, bon, ben, il est dans les évangiles, mais il est mort, c'est fini. Non, il n'est pas mort. Ben, oui, il est mort, mais il est ressuscité. Il est sorti de la mort et il est vivant et il passe dans nos rangs ce matin. Et il veut nous parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va écouter la voix de Dieu qui lui parle? Je propose qu'on ait juste quelques instants de prière.